Bonjour, sur Balado Neurotransmetteur, une série de balados où nous explorerons le sujet complexe et mais fascinant des migraines. Aujourd'hui, nous allons discuter du traitement aigu de la migraine. Je suis votre hôte, Dr. Claude Garceau, interniste à l'UCPQ à Québec et un passionné de santé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir à nouveau de parler du traitement aigu de la migraine avec Dr. Heather Pym, qui est neurologue à la clinique des céphalées du CHUM. Donc, un oiseau rare en neurologie qui s'intéresse très particulièrement à la migraine. Alors, merci, Dr. Pym, de vous joindre à nous à nouveau. Alors, pour débuter, pourriez-vous nous dire quelles sont les lignes directrices, parce que je pense qu'il y en a maintenant des nouvelles, pour le traitement aigu de la migraine?
Oui, mais bonjour, Dr. Garceau, et merci. Je tiens à vous remercier de m'avoir invité à discuter des sujets de la migraine, entre autres le traitement aigu de la migraine, parce que effectivement, c'est un sujet que je tiens à cœur. C'est une fois que le diagnostic est fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça, hein? Donc, j'espère que ce balado va outiller notre auditoire à être plus à l'aise avec le traitement aigu de la migraine. Donc, pour répondre à votre question, les lignes directrices canadiennes, mais ça remonte à presque 10 ans maintenant, là. Mais ça demeure quand même des choses qu'on utilise. Donc, par exemple, quand on regarde la migraine, on commence avec un traitement qui est relativement simple. Donc, on commencera avec des analgésiques simples, comme l'acétaminophène ou l'ibuprofène ou d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et en deuxième intention, on pourrait utiliser les triptans. Donc, les triptans, maintenant, c'est des médicaments dits casse-crise pour la migraine qui existent depuis une trentaine d'années. Une classe plus spécifique à la maladie. Donc, on n'utilise pas les triptans pour autres formes de douleur. Et c'est un mécanisme plus spécifique à la pathophysiologie. Donc, c'est des antagonistes des récepteurs 5-HT1B et D. qui sont impliqués dans la pathophysiologie de la migraine. Il y en a 7 sur le marché canadien. Je pense que c'est, il y en a tous qui sont couverts par la RAMQ, sauf le fovatriptan. Mais le fovatriptan, vu qu'on traite une relativement jeune population qui ont la plupart une assurance privée, habituellement, ça ne pose pas problème. Là, les catégories que je viens de vous parler, les analgésiques simples et les triptans, ils peuvent être prises de façon concomitante. Donc, ce qu'on suggère souvent, c'est de commencer avec une analgésique simple ou un anti-inflammatoire non stéroïdien et de complémenter une heure ou deux plus tard avec un triptan si jamais la migraine n'est pas cassée. Si après quelques essais, par contre, le patient a réalisé que, bon, je trouve que c'est juste mieux quand je prends le triptan, bien, ils peuvent essayer le triptan seul, par exemple. Oui, ils peuvent prendre la combinaison ensemble, donc une anti-inflammatoire non stéroïdien avec un triptan en même temps. Et l'autre aspect important, c'est que si la migraine n'est pas résolue après 2 heures, on peut répéter la prise de médication, l'anti-inflammatoire et ou le triptan pour être sûr de bien casser la crise et ça idéalement en dedans de 2 heures. Donc, c'est bien reconnu que quand on attend pour traiter nos migraines, les médicaments casse-crise sont moins efficaces. Donc, c'est l'autre aspect. C'est pas juste ce qu'on choisit ou ce qu'on prescrit à nos patients, mais les conseils qu'on leur donne. Donc, très important de prendre un traitement rapidement au début des symptômes des migraines pour casser plus efficacement chaque crise. Les autres aspects des lignes directrices indique qu'à n'importe quel stade, donc que ce soit une migraine dans son stade légère à modérée ou plus sévère, à n'importe quel moment, on peut rajouter des antiémétiques comme le domperidone ou autre, là, mais le méthoclopramide, par exemple. N'importe quel antinauséeux peut être utile, surtout en présence de nausées, mais ça peut avoir un impact positif sur la migraine également. Les choses à éviter, ça aussi, ça fait partie des lignes directrices, c'est les narcotiques autant que possible, parce que les narcotiques ne sont pas spécifiques à traiter la migraine. C'est des cache-bobos, des cache-douleurs. Et donc, la migraine est en dessous. Et ça peut être une stratégie intéressante pour mener à un congé de l'urgence, par exemple, mais souvent rendu chez eux, les gens ont encore la migraine puis reviennent. Donc, ça crée un genre de porte tournante. Et les narcotiques, non seulement pour toutes les raisons qu'on sait, mais plus spécifiquement pour la migraine, cause beaucoup plus de céphalées d'origine médicamenteuse. Donc, ça vous donne une petite idée de nos différentes lignes de traitement basées sur les lignes directrices canadiennes.
Est-ce que les triptans sont encore vraiment efficaces en 2022? Pouvez-vous me parler très, très brièvement de l'efficacité des traitements? Est-ce que des patients qui ne sont pas répondants, on peut estimer ça à combien de pourcents à peu près?
Bien, en fait, plusieurs patients vont dire que depuis que les triptans ont sorti sur le marché, ça a changé leur vie. Bien évidemment, il y a à peu près peut-être une 25% des patients qui n'ont pas une réponse au triptan. Et juste l'application de ça est très, très intéressante, mais en fait, je vous dirais pas intéressant, plutôt méconnu. Hein, pourquoi il y a des gens qui répondent très, très bien et d'autres non? On croit à la base qu'il y a une certaine pathophysiologie de la migraine, mais qu'il y a probablement certaines différences par rapport aux neuropeptides qui sont sécrétés pendant les attaques. Et donc, ils peuvent avoir des migraines qui ont une pathophysiologie un peu différente que d'autres personnes. Et ça expliquerait probablement pourquoi il y a certaines qui ne répondent pas aux triptans et d'autres oui. Mais sinon, les triptans, c'est vraiment des traitements courants pour la migraine qu'on utilise très, très souvent. Où on sera empêché de le faire, c'est chez les personnes qui ont des contre-indications, surtout cardiovasculaires. Donc, vu que ça agit sur les récepteurs 5-HT1B et D, ça cause de la vasoconstriction. Et donc, ça demeure une contre-indication chez les patients avec des comorbidités cardiovasculaires, telles que l'hypertension artérielle mal contrôlée, de la maladie coronarienne athérosclérotique. La maladie vasculaire périphérique un peu moins, mais quand même à considérer. Pour longtemps, on ne donnait jamais des triptans chez des patients qui ont eu des AIT ou des AVC. Là, avec une meilleure recul au niveau de l'imagerie cérébrale, on reconnaît que les triptans causent moins de vasoconstriction intracérébrale, c'est surtout extracérébrale. Mais quand même, on veut pas, je pense pas que je ferais exprès pour donner des triptans tout de suite après un AVC, mais ça cause moins de vasoconstriction intracérébrale. Donc tout ça pour dire que les triptans sont encore un traitement très courant, malgré qu'il y a un très faible pourcentage de patients qui ne répond pas, ça demeure un des traitements principaux.
Est-ce que ça vaut la peine de passer d'un triptan à un autre parce qu'il y en a plusieurs sur le marché ou c'est une perte de temps de faire plusieurs essais de triptan?
À mon avis, on devrait faire les essais. Vu mon métier, c'est pas rare que je passe à travers les sept qu'il y a sur le marché si je ne suis pas satisfait avec la réponse des premiers que j'essaye. Parfois, la pharmacocinétique du médicament peut nous aider ou la formulation du triptan. C'est-à-dire que parmi les sept sur le marché, tous les triptans existent sous une forme pérose. Il y en a certains, comme le zolmitriptan ou le sumatriptan ou le rizatriptan, qui existent sous forme de cachet fondant. J'ai fait une erreur. C'est le rizatriptan et le zolmitriptan. Il y en a d'autres, comme le sumatriptan, qui existent sous forme d'injection subcutanée. Et il y a le sumatriptan ou le zolmitriptan qui existent sous forme de vaporisateur nasal. Donc, pourquoi c'est intéressant d'avoir des formulations différentes si on regarde le portrait clinique de la migraine? Si, par exemple, on a quelqu'un qui a des nausées précoces dans leur phase de migraine ou des vomissements précoces, de leur faire prendre une pilule par la bouche, ça nuit à l'efficacité du traitement. Et parce qu'il y a clairement une gastroparésie qui s'installe et donc l'absorption, l'efficacité est moindre. Donc pour quelqu'un qui aurait des nausées précoces ou des vomissements, un cachet fondant, un vaporisateur nasal ou une injection succédanée serait meilleure, au moins théoriquement, tu sais, je pense à essayer. Il y a aussi les patients qui se réveillent avec leur migraine le matin et on ne sait pas depuis quand la migraine est installée. Donc, ça se peut que la migraine soit installée depuis déjà 4 heures. Donc, après ça, de prendre une pilule qui va prendre 1 à 2 heures pour être efficace, on manque notre fenêtre de traitement. Donc, idéalement, c'est de traiter la migraine le plus tôt possible, idéalement dans 2 heures, pour être le plus efficace. Et si les premiers triptans qu'on utilise n'est pas efficace, ben c'est recommandé d'essayer les autres juste à temps qu'on trouve une formulation qui aide la personne à casser leur migraine.
Merci pour ces conseils judicieux. Peut-être me parler très, très, très brièvement du problème de céphalée rebond dans la migraine.
Oui, donc en fait, un problème très courant qui est avec 1 à 2 % de la population mondiale. Et je crois que la raison à la base, c'est parce que plusieurs personnes n'ont pas un médecin de famille, donc ils vont aller à la pharmacie chercher des médicaments en vente libre, comme l'acétaminophène et l'ibuprofène. Ils se traitent pour survivre à leur migraine puis à continuer leur vie. Et si on prend des médicaments casse-crise pour la migraine plus que 10 jours par mois, si on regarde toutes les catégories confondues, donc triptan, anti-inflammatoire, acétaminophène, ben on court le risque de développer des céphalées de rebond ou des céphalées d'origine médicamenteuse. Donc, c'est un très gros problème. La seule façon de traiter ça, c'est d'arrêter la médication qu'on surconsomme. Puis ce qui peut aider avec ça, c'est de mettre en place un traitement préventif pour donner un coup de main dans l'arrière-plan.
On va parler d'avenir maintenant, parce qu'on a les vieux traitements, puis il y a quand même des développements majeurs. Qu'est-ce que l'avenir nous apporte bientôt dans le traitement de la migraine? Peut-être nous parler aussi du fameux CGRP dans la pathophysiologie de la migraine, peut-être me parler des GEPAN, la nouvelle classe de molécules, qui n'est pas encore sur le marché, mais qui va arriver bientôt.
Oui, bien sûr. Donc, en fait, le CGRP ou le PRGC, en français, c'est le peptide relié au gène de la calcitonine. Donc, un neuropeptide cible reconnu maintenant dans la pathophysiologie de la migraine. Donc, plusieurs médicaments qui vont sortir basés sur ce mécanisme-là, incluant les GEPAN, qui seront des antagonistes du CGRP, qui vont travailler justement pour prévenir la vasodilatation, pour prévenir le relâchement d'histamine et aussi différentes neuropeptides comme le CGRP. En fait, c'est pas récent qu'on travaille sur les antagonistes du CGRP. Les études ont commencé il y a une trentaine d'années, mais ils ont terminé précocement à cause de hépatotoxicité. Mais les études ont été reprises avec des modifications des molécules. Et là, les GEPAN vont être une classe de médicaments, le Ubro-GEPAN, qui sera un médicament pour casser la migraine. L'avantage que je vois sans avoir accès encore à ces médicaments, c'est que les GEPAN ne devraient pas causer des céphalées d'origine médicamenteuse. Aussi, pour être une option intéressante pour les patients avec des contre-indications cardiovasculaires.
Bien, en fait, je trouve ça fascinant, le monde de la migraine, parce qu'on a de nouveaux traitements, on a discuté des anciens, du problème de la céphalée rebond. Donc, restez à l'écoute, mes chers auditeurs, pour les développements en migraine, parce qu'il va en avoir plusieurs là, d'ici quelques mois, on espère, ou durant la prochaine année. Merci, Dr. Pim, d'avoir partagé votre expertise avec nous et d'avoir discuté des différentes options de traitement. À nos auditeurs, je vous remercie d'avoir écouté ce balado. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode où nous traiterons des traitements préventifs de la migraine.